Radio Starberg.
Morning Edition from NPR.
France Inter. Le 18-20.
Les hindouistes décident de ce que nous devons manger, pour qui nous devons prier et comment nous devons vivre dans notre maison. Vous trouvez cela juste ?
Et bienvenue en Inde. En Inde, et ces 900 millions d'électeurs qui votent à partir de demain jeudi, nous vous emmenons dans des meetings électoraux ce soir et voir aussi précisément comment est contestée la politique de Modi au pouvoir depuis 5 ans, qualifiée parfois de national-populiste. Sous les radars, et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Italie, en Géorgie, un peu sur Mars aussi, au Japon, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un film allemand, La nuit de l'évasion, l'histoire d'une évasion spectaculaire d'Allemagne de l'Est jusqu'à l'Ouest, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four et l'Europe qui se couche alors devant Theresa May. Avant cela, c'est au Soudan que nous allons. Un Soudan en train de se soulever. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Depuis quelques jours, depuis le week-end dernier, le Soudan manifeste. Le Soudan conteste le pouvoir en place et il le fait très courageusement. Une révolte à bas bruit puisqu'en réalité elle dure depuis le mois de décembre, mais après une autre tournure qu'on a très envie de suivre. Bonsoir Anne-Laure Mahé.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Est à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Et c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. On en a très peu parlé, on l'a très peu vu arriver, mais ça commence au mois de décembre. Et ça commence sur un prix du pain, en fait, tout simplement, qui a été multiplié par 3.
Oui, tout à fait. Ça, en fait, le détonateur a été le triplement du prix du pain à Atbara, qui était en fait lié à l'augmentation du prix de la farine, qui est une ville située au nord-est, du Soudan. Mais évidemment, ça venait après plusieurs années de dégradation de la situation économique. Et plusieurs années, on avait quand même ponctuellement des mouvements de protestation qui se mettaient en place, mais qui évidemment ne prenaient pas la même ampleur.
Alors justement, pourquoi subitement il y a cette ampleur ? Est-ce qu'il y a quelque chose là, le week-end dernier, qui déclenche ? Est-ce que c'est quelqu'un qui envoie les gens dans la rue ? Qu'est-ce qui se passe pour que subitement il y ait autant de gens dehors et qu'on en parle ?
Alors évidemment, c'est très compliqué à savoir, puisque la principale organisation...
En fait, il ne s'est rien passé de précis au fond, en fait.
Il s'est quand même passé quelque chose d'assez symbolique. En fait, le sit-in qui est en cours depuis plusieurs jours, en fait, a commencé le 6 avril. Et le 6 avril, c'est une date symbolique pour le Soudan et pour les Soudanais. Mmh. C'est la date anniversaire de la révolution de 1985 qui avait mis fin à la dictature du général Nimeri. Et donc, cette date avait été choisie pour un vaste mouvement et c'était évidemment pas par hasard. Et en fait, un peu à la tête des manifestations, on a une organisation qu'on ne connaît pas vraiment, qui a émergé, qui s'appelle l'Association des professionnels soudanais, qui regroupe notamment pas mal de professionnels des services de la santé, etc. Et qui gère un peu le mouvement d'une main, ceci dit, assez légère. À la base, il y avait quand même des choses spontanées.
Mais ça veut dire que c'est la société civile, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est la société civile ou au fond, derrière un mouvement qui ressemble à de la société civile, il y a d'autres mains derrière qui sont des mains plus politiques ? Est-ce que c'est vraiment une spontanéité de société civile ?
C'est assez clairement... Oui, effectivement. Enfin, alors le terme de société civile est un peu complexe, mais c'est assez clairement pas en fait dû au mouvement politique. C'est pas les partis d'opposition qui ont lancé ce mouvement-là. C'est vraiment né déjà d'un mouvement spontané, comme je disais, dans certaines régions face à la situation économique, puis aidé par cette organisation, puis finalement qui est un peu n'est pas un syndicat puisque on a des syndicats officiels, mais les autres sont interdits, et qui est donc quelque chose d'un peu plus fluide comme organisation. Qui potentiellement, dans laquelle on a des gens qui ont déjà l'expérience de mobilisation et qui donc font un peu ce travail dont on s'attendrait que ce soit des syndicats en fait.
Est-ce qu'on peut rappeler qui justement dirige le Soudan depuis 35 ans maintenant, ce président Omar el-Bashir, poursuivi pour crime de guerre quand même, on a la mémoire courte parfois de l'époque du Darfour. Qui c'est ce monsieur-là en fait ?
Alors, Omar el-Bashir, c'est à la base un militaire, c'est un brigadier qui, en fait, en 1989, se retrouve au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui est en fait fait par une coalition d'islamistes, emmenée par Hassan al-Tourabi, qui était l'idéologue du régime, et donc qui se sont alliés avec une faction de l'armée pour renverser le régime démocratique de Sadiq al-Mahdi. Et donc, c'est Omar el-Bashir qui, finalement, au départ, était vu comme quelqu'un qui était... en quelque sorte une marionnette aux mains d'Hassan al-Tourabi. Et en 99, vous avez un schisme entre les deux et Omar el-Bashir se sépare de Tourabi qui est mis qui est assigné à résidence et prend le pouvoir un peu tout seul à partir de ce moment-là.
Ça veut dire que c'est un homme qui a jamais été populaire auprès des gens qui sont là, qui manifestent, jamais, à aucun moment, en 35 ans de pouvoir.
Alors, c'est évidemment difficile à dire, on va faire des généralités, mais je pense qu'effectivement, c'est... En fait, faut se rappeler, en 1989, faut se rappeler que même les Soudanais, en fait, n'étaient pas certains de ce qui était en train de se passer. Même les médias internationaux, quand on regarde ce qui s'est passé, personne n'avait très bien compris ce qui était en train d'arriver au Soudan. Et il y a une forte répression dès le début. Qui était assez inusité en fait dans le contexte soudanais, et donc effectivement à partir de là c'est un régime qui a été marqué par sa grande violence et dont on peut douter qu'il ait une grande loyauté au sein de la population, et là depuis plusieurs années c'est clairement absolument pas le cas.
Et Anormae, c'est quoi le Soudan aujourd'hui en fait? Alors nous, encore une fois, on en a une vision très parcellaire, on se souvient de la partition Soudan du Sud et Soudan en 2011, mais est-ce que c'est un pays, quel type de richesse finalement? Est-ce qu'il y a une vraie classe moyenne au Soudan? Les gens qu'on voit justement dans la rue, est-ce que ce sont des gens de cette classe-là, des gens qui travaillent ou pas? À quoi ça ressemble aujourd'hui économiquement?
Alors, il y a eu potentiellement une classe moyenne qui a émergé pendant les années où on a eu les revenus du pétrole, donc à peu près entre 99 et la séparation avec le Sud-Soudan en 2011, qui possède la plupart des richesses du pétrole. Et depuis qu'on a la fin de ce revenu-là, évidemment, la classe moyenne a beaucoup souffert, et le processus de développement, qui était de toute façon très inégalitaire, c'est arrêté, et c'est assez visible quand on se déplace à Khartoum. Hein, vous avez tout un tas de bâtiments en construction abandonnés. Et depuis plusieurs années, on se rend compte, voilà, que la population de plus en plus survit beaucoup plus difficilement que ce n'était le cas auparavant. Et évidemment, vous avez beaucoup de... Voilà, parce que le Soudan, ce n'est pas que Khartoum, hein, avez beaucoup d'autres régions.
Absolument. Et où on manifeste aussi, d'ailleurs, ou pas?
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important de le rappeler. Alors, peut-être moins depuis que l'état d'urgence a été mis en place fin février. Mais aujourd'hui, j'ai vu, voilà, il y a eu des manifestations dans une région qui s'appelle le Nord Kordofan, dans l'Ouest, où il y a eu un enfant qui a été tué. Enfin, il y a eu, depuis le début du mouvement, dans différentes villes de province, des mouvements spontanés également. Apparemment, on aurait des gens des provinces qui sont à Khartoum, qui sont arrivés au sit-in à Khartoum. Donc effectivement, il ne faut pas oublier cette participation-là.
Je voudrais vous faire écouter ceci. Si on écoute, vous avez vu cette image comme nous tous, parce que c'est en train de devenir l'image iconique de cette révolution. On saura peut-être un peu plus tard comment il faut l'appeler aujourd'hui. C'est une femme qui est debout sur une voiture et qui harangue la foule. Beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes dans ces manifestations, dans ces cortèges et dans les sittings. Comment se fait-il qu'elles soient aussi en avant dans cette société-là?
Alors,
on a tendance à penser qu'elles sont derrière, précisément. Semble-t-il beaucoup moins qu'on l'imagine.
En réalité, je pense qu'il faut s'interroger sur pourquoi on a cette représentation, représentation-là des femmes au Soudan.
Pourquoi subitement l'icône, c'est ça, en fait, c'est une femme.
Tout à fait. Alors, elles sont présentes depuis le début du mouvement, et je pense que c'est important de rappeler que les femmes soudanaises, notamment, sont très nombreuses à l'université, voire sont majoritaires.
Il paraît 76%, j'ai lu ce chiffre-là, je crois, dans Le Monde ces derniers jours, ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, et elles sont beaucoup dans ces professions, ces filières aussi de santé, etc., qui sont très actives, en fait, dans le mouvement de protestation. Et même si au Soudan, le régime a quand même beaucoup entravé le développement d'ONG, d'une société civile, comme vous le disiez, active, on a quand même depuis longtemps des initiatives qui s'organisent, des petites ONG dans lesquelles on trouve beaucoup de jeunes femmes qui sont très investies. Vous avez aussi à Khartoum l'université Arfad pour les femmes, où on a eu des manifestations en janvier 2018, etc., qui est un lieu assez actif aussi.
Mais au point qu'on pourrait voir une femme émerger de ce mouvement-là, alors je ne vais pas vous faire de la politique fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer ça, sincèrement, ou ça vous paraît assez surréaliste?
Alors, c'est...
Alors, au point où on en est remarqué, pourquoi pas, hein, mais...
Alors, c'est parce que la question, c'est un peu... La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a en face d'Omar El-Béchir? Et aujourd'hui, on a une alliance entre cette association des professionnels soudanais et les partis d'opposition historique, et notamment le parti Oumma de Sadiq El-Mahdi. Et c'est sa fille qui a pris un peu la direction, parce que lui est quand même assez âgé, Mariam El-Mahdi. Donc, peut-être qu'elle va devenir un acteur particulièrement important, ou une actrice particulièrement importante, plutôt du mouvement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très, très compliqué à dire.
Ce qui est évidemment intéressant, et c'est intéressant aussi quand on regarde les voisins pas si lointains que sont les Algériens. Une fois encore, l'armée est l'arbitre entre la population et un pouvoir excessif. D'abord, est-ce que dans un pays que vous connaissez comme le Soudan, est-ce que ça vous étonne que l'armée, au fond, n'ait pas encore tout à fait pris fait et cause, mais on a l'impression qu'on est un peu à ça, en fait, pour les manifestants.
Alors, je pense que c'est à vraiment à prendre avec des pincettes. Mm-hmm. Alors, encore une fois, peut-être que demain, il va se passer complètement Absolument. Autre chose. Mais parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu l'armée prendre position. On a des discours qui sont assez ambigus sur l'armée qui va protéger le peuple, mais en même temps empêcher le chaos. Et on a quand même le chef d'état-major des armées qui, il y a quelques jours, a réitéré que finalement l'armée était derrière le leadership. Donc, pour l'instant, effectivement, il semblerait que sur le terrain, dans le sit-in, il y a eu des échanges de tirs entre l'armée et les gens des services de sécurité du Nice.
Pour l'instant, c'est pas l'armée qui tire, en tout cas. Quand il y a des morts, c'est pas l'armée. On est d'accord là-dessus.
Non, c'est depuis le début du mouvement. En fait, l'armée ne s'occupe pas de la répression du mouvement. Ce sont soit, voilà, des milices avec les services de sécurité qui sont en général derrière. Ce sont souvent un peu des milices qui émergent, dont on ne connaît pas très bien l'identité. Mais ce n'est certainement pas l'armée qui gère ce genre de choses.
Est-ce que, et comme en Algérie, encore une fois, le moment où l'armée prendra une vraie position sera le tournant de ce mouvement-là ou pas ?
Je pense que effectivement, ce sera un moment crucial où en fait, ça va révéler quand même plusieurs choses. D'abord, la question, c'est si l'armée prend fait et cause pour le mouvement, a-t-elle les capacités en fait de faire face aux autres institutions de l'appareil sécuritaire ? C'est vraiment important de voir que cet appareil est extrêmement divisé. Et ça a été très intentionnel hein, comme politique. Donc finalement, serait-elle capable de faire face à ces autres institutions ? Est-ce qu'on aurait aussi une division au sein de l'armée ? Parce que les hauts gradés ont un intérêt au maintien du régime. On sait depuis longtemps que l'armée a été phagocytée par les islamistes depuis même avant 89. On a eu des remplacements récents, hein, des départs à la retraite, des nominations, etc. Donc l'armée semble quand même, du moins au plus haut niveau, acquise encore au régime. La question, c'est les militaires du rang qui, eux, peut-être, sont plus proches des manifestants, finalement.
Là aussi, on a l'impression que c'est tout un système, en fait, qu'il faut faire tomber. Qu'est-ce qui tombe en même temps que le système, si le système s'écroule, en fait ? Est-ce qu'il reste des garde-fous, notamment les institutions, etc. ? Est-ce que ça existe, ça, pour maintenir ce pays à flot, si le pouvoir en place explosait ou pas ?
C'est une question complexe. Hein. Dans toute transition, se pose la question de savoir notamment ce qu'on va faire des gens qui sont dans le système, en fait. Donc, et c'est la question qui va se poser en Algérie également.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des similitudes qui sont très intéressantes à observer. On est dans deux scénarios qui sont un peu identiques dans deux pays qui sont évidemment très différents l'un de l'autre.
Tout à fait. Et la question, ça va être finalement, est-ce qu'on veut faire table rase, et on ne le fait jamais totalement, hein, et écarter ces gens-là, mais qui en même temps, du coup, pourraient finalement empêcher le déroulement d'une transition potentiellement démocratique, parce qu'eux n'ont plus intérêt, en fait, à ce que cette transition se passe, vu qu'ils en sont écartés.
Et autour, d'ailleurs, et c'est peut-être ça aussi la vraie différence avec l'Algérie, d'ailleurs, autour, qui a intérêt à ce qu'il ne se passe pas grand-chose au Soudan ? On a les Égyptiens qui ne sont pas très loin, enfin, ils sont même frontaliers, ils sont juste au-dessus. On sait que le Yémen n'est pas loin non plus, donc on connaît les intérêts que l'Arabie Saoudite peut avoir. Nous, la France, on n'a pas envie de voir une vague migratoire, parce que c'est bien ce qui nous fait peur, j'imagine. Donc, qui a intérêt, au fond, à ce que ce pays se démocratise et en tout cas passe dans cette phase où on explose le système actuel ?
Alors c'est évident que pour l'instant, peu de pays, il y a eu récemment des déclarations de l'Union européenne, etc. Mais dans les pays voisins, c'est clair qu'il y a eu un soutien réaffirmé au régime de la part de l'Égypte. Et aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Ah oui. Le régime d'Omar el-Béchir a toujours essayé de jouer sur un peu tous les tableaux, où ils ont été aussi le renflouer un peu avec un peu d'argent, parce que c'est quand même ça l'enjeu, un des enjeux principaux. Également, les Soudanais, en fait, sont sur le terrain au Yémen, hein, pour l'Arabie Saoudite. Ce sont eux qui sont en première ligne. Après, est-ce que ce soutien-là est inconditionnel ? Je n'en suis pas certaine. Ça peut devenir un allié encombrant, parce que je pense que ce qui est important de voir, c'est que cette idée du chaos probable, en fait, moi je pense que la question qu'on doit se poser, et que tout le monde se pose, hein, c'est finalement le chaos vient-il des manifestants, ou est-ce qu'à un moment donné, les acteurs vont avoir un changement de perspective, et vont se dire que c'est le régime incapable de régler les problèmes structurels du pays qui provoque ce chaos.
Une toute dernière chose, il y a déjà eu des morts, il y a eu beaucoup d'arrestations aussi, mais finalement, par rapport à l'ampleur des manifestations et le type de pays dont on parle, les choses se passent relativement bien, encore une fois je dis relativement, parce qu'il y a effectivement eu des morts. Est-ce que cette crainte, elle existe réellement ? Qu'à un moment, le pouvoir dise « bon, c'est bon, et on lâche tout », ça veut dire qu'on tire, en fait.
Clairement.
Un vrai risque.
C'est clairement une crainte qui est omniprésente chez tout le monde, c'est une pensée qui est présente chez tout le monde. On se souvient qu'en 2013, on avait eu un mouvement de protestation et en quelques jours, il y avait eu 200 morts. ce qui est quand même énorme.
Et donc, ça avait duré une journée, non, ce mouvement?
Oui,
dans mes
c'est
souvenirs.
Ça. Et donc là, clairement, on a une stratégie différente de la part du pouvoir, avec une répression qui potentiellement, au niveau des chiffres de morts, de violences létales, est moindre, mais on a quand même une violence plus dissimulée potentiellement, de torture, d'arrestation, de disparition forcée, qui est très présente. Et c'est certain que c'est un peu la crainte de tout le monde. Et à cet égard, je pense que la stratégie de diffuser cette photo de cette femme fait partie aussi pour les manifestants d'une stratégie de déjà légitimer le mouvement à l'étranger, d'attirer le regard de l'étranger sur le Soudan, puisqu'on sait que le régime, depuis plusieurs années, essaye de regagner sa place un peu dans le concert des nations et donc n'a pas intérêt à ce qu'on regarde de trop près ce qui se passe.
Et nous, on regarde en tout cas de très près ce qui se passe dans ce pays parce que c'est passionnant. Anne Lormaille, merci beaucoup.
Merci.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Inde, qui termine sa campagne électorale. 900 millions d'électeurs, 39 jours de vote. On vous racontera ça dans un instant. Sous les radars et Amélie Perrier, avec notamment des Italiens qui votent Mussolini, le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez nous raconter la plus belle évasion de l'histoire entre l'Est et l'Ouest, un film allemand.
Mais oui, une histoire incroyable. Deux amis qui ont construit dans les années 70 une montgolfière pour fuir l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est, ils avaient déjà raconté leur histoire pour Disney. L'histoire avait déjà été adaptée. Elle revient aujourd'hui à travers l'équivalent allemand de Danny Boone.
Eh ben écoutez, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec une Europe qui quoi, s'est couchée devant Theresa May alors ou pas?
Écoutez, il ne faut pas jouer au poker avec le Royaume-Uni, c'est plus fort que toi.
Allez, on se retrouve dans un instant, 18h55. Jean-Marc, le tour de la planète n'est pas fini. Oh ben il nous ramène sacrément en arrière. Tiens, voici Donovan, figurez-vous. Mellow Yellow. Just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a loss of tenil. Wanna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Voilà, ne me remerciez pas de vous avoir mis ça dans la tête pour le reste de la journée. C'est parfait comme ça. Amélie Perrier, féline manœuvrière qui passe sous les radars pour venir jusqu'à nous.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie mon capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
C'est tout moi.
C'est pas donné à tout le monde de passer
c'est
sous un radar.
C'est tout moi.
Amélie, l'Italie, les élections européennes le mois prochain, on pourra voter là-bas pour Mussolini.
Et ça n'a rien d'une blague. Vous pourrez même voter pour Jules César Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, l'arrière-petit-fils du dictateur italien.
Un honore per me essere candidato per Fratelli d'Italia, partito patriottico.
Alors le voici dans le clip d'annonce tourné devant le Colisée carré, monument emblématique de l'architecture fasciste à Rome. Le jeune Mussolini, il a 50 ans, rejoint donc la liste des Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, petit parti d'extrême droite. ancien officier sous-marinier, aujourd'hui chef d'entreprise, il se lance en politique. Totalement décomplexé hein, sur son héritage familial, il a dit au Times que Benito Mussolini a fait beaucoup de choses hein, positives et quelques erreurs. Et d'ajouter, le soutien de Tony Blair à la guerre en Irak était un crime, mais les Britanniques ne l'attaquent pas tous les jours. On lui laisse la comparaison. Il suit aujourd'hui les traces d'une cousine éloignée, Alessandra Mussolini, petite fille du Duce. Elle est déjà eurodéputée depuis 2014 pour Forza Italia. Mais Caius Jules César Mussolini dit aujourd'hui que ce n'est pas vraiment son nom de famille hein, que l'on a courtisé, davantage son prénom, Jules César. Pas extrêmement courant, mais pas rare non plus en Italie. En tout cas, il va défendre une ligne ultra-souverainiste, l'intérêt national avant tout, a-t-il promis.
Allez, ce n'est pas un voyage dans le temps, mais dans l'espace que tentent aujourd'hui les Géorgiens.
La Géorgie, très fière de ses vins, on en fait depuis 8000 ans là-bas. Ce pays du Caucase a décidé de faire pousser des vignes sur le sol de Mars. Vous pensez que c'est de la science-fiction, mais pas tant que ça. Marika Tarasashvili est astrobiologiste. Elle fait partie du consortium de scientifiques qui a répondu à un appel de la NASA, appel à imaginer une présence humaine durable sur Mars. Et leur angle de recherche, c'est de réussir à faire pousser des vignes dans des conditions extrêmes. En laboratoire, dit-elle, nous recréons les conditions de Mars. Nous croisons plusieurs bactéries capables de survivre dans l'environnement martien. Et l'une d'entre elles transforme le sol martien en sol fertile. Et Marika assure avoir déjà des résultats concluants. Alors l'enjeu, c'est peut-être de faire du vin pour les humains qui iront vivre sur Mars. Les Américains
ont promis. La première chose dont on aura besoin en arrivant sur Mars.
En tout cas, c'est l'intérêt des Géorgiens. Les Américains ont promis quand même de faire partir le premier vol habité dans 25 ans. Mais c'est peut-être surtout l'enjeu d'adapter l'agriculture sur Terre à des conditions de plus en plus difficiles aux conséquences du réchauffement climatique. Et ça, c'est pas du tout de la science-fiction.
Allez, Amélie, vous tenez vraiment à ce que nous parlions sexe, donc pour terminer. Allez-y.
Sexe au Japon. Une nouvelle étude là-bas confirme ce constat assez incroyable. Environ 10% des trentenaires sont encore vierges, aucune relation hétérosexuelle. Et le nombre d'adultes au Japon sans expérience augmente. Étude très sérieuse de l'Université de Tokyo à partir des données allant de 1987 à 2015. En 2015, donc, près de 12% des femmes âgées de 30 à 34 ans et encore plus d'hommes, 12,7% des hommes du même âge, donc, n'ont jamais eu de rapport hétérosexuel. Dans la tranche d'âge suivante, 35-39 ans, on est autour de 9% à rester vierges. L'étude ne pose pas la question des rapports homosexuels, mais si on les inclut, les chercheurs affirment que la tendance reste à peu près la même. Takashi Sakai témoigne pour Brut, il a 41 ans et toujours puceau. Alors quand tu es jeune, dit-il, tu as peur de te faire rejeter. Je pense que beaucoup de gens prétendent qu'ils s'en fichent du sexe pour ne pas connaître l'échec. Alors vous voyez le poids d'une société de la performance, de l'excellence. Et la contradiction au Japon, c'est que le sexe est partout. Le porno, la prostitution, les poupées et autres gadgets sexuels. Ce serait même la deuxième industrie du pays derrière l'automobile. Mais si l'on en parle beaucoup, on n'en fait pas grand-chose. Et le problème plutôt inquiétant au-delà du déficit de plaisir, hein, c'est le déficit de bébés. La population décline, le taux de fertilité est au plus bas. Le gouvernement tente d'agir, des aides aux mères qui travaillent et plus de places en crèche. Mais les prévisions sont pessimistes. Dans les 45 prochaines années, le Japon pourrait perdre plus de 38 millions d'habitants, sans parler donc du plaisir.
Eh oui, merci beaucoup Amélie Perrier, Un jour dans le monde, tous les jours, non, pas sous les radars, tous les jours, dans Un jour dans le monde.
Aussi.
C'est dans
aussi.
Cet ordre-là que ça se passe.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem, Mecca, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et ce soir, c'est en Inde que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde. L'Inde qui vote à partir de demain jeudi 900 millions d'électeurs. Sérieusement, ça va se passer en 7 phases, à tour de rôle, des résultats pas avant le 23 mai. Depuis 5 ans, vous savez que ce sont les nationalistes hindous du BJP, le parti du peuple indien, qui détiennent la majorité absolue à la Chambre basse. Le Premier ministre Narendra Modi, aussi charismatique que controversé, a imposé des réformes économiques et sociales radicales au pays. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
En Inde, Sébastien, pour Un jour dans le monde. Sébastien, c'est surtout la politique hindouiste de Modi qui est contestée par l'opposition parce qu'elle a amené à réprimer, voire à entraîner le meurtre de dizaines de musulmans. Et pendant cette campagne, le BJP a joué sur ces discours extrêmes. On écoute votre reportage, Sébastien.
Il est 2h de l'après-midi et le soleil cogne en ce début d'été. Plusieurs centaines de personnes sont agglutinées sur l'esplanade centrale de Ghaziabad, en banlieue de New Delhi, pour le meeting du parti nationaliste hindou du BJP. La personne qu'ils sont venus voir surgit alors sur l'estrade. On aperçoit un homme au crâne rasé et habillé d'une toge safran. C'est Yogi Adityanath, un moine radical hindou et chef du gouvernement de cette région de l'Uttar Pradesh, le plus grand état indien. Il est venu ici pour appuyer la candidature de Vijay Kumar Singh, ancien général d'armée et député local en campagne sous la bannière du BJP. Yogi Adityanath adopte un ton martial pour attaquer l'opposition du Congrès.
Le parti du Congrès collaborait avec les terroristes et leur offrait du biryani à manger. L'armée de Modi, elle, leur fait manger des balles et des bombes. Nous avons réduit les terroristes en cendres et brisé le dos du Pakistan. Tout ce qui était impossible avant est possible aujourd'hui, car c'est Modi qui commande.
Le BJP exploite ainsi l'opération de l'armée indienne qui a bombardé des camps terroristes pakistanais en février dernier et ses dirigeants vont jusqu'à parler de l'armée de Modi et non de l'armée indienne. Le Premier ministre Narendra Modi a extrêmement personnalisé l'exercice du pouvoir depuis 5 ans et il se présente maintenant officiellement comme le Chowkidar, le gardien de la nation indienne. Mais pour Narendra Modi, la nation ne semble composée que d'hindous. Et c'est le message envoyé lors de ce meeting du même jour où il parle d'une attaque terroriste passée qui aurait été perpétrée par des hindouistes.
Le Congrès a parlé dans le passé de terrorisme hindou. Dites-moi, vous ne vous sentez pas vexé par ce terme ? Dans notre histoire millénaire, y a-t-il déjà eu un exemple d'un hindou qui a commis un acte terroriste ? Le Congrès a commis un péché et a insulté toute la nation en parlant ainsi. Ils nous ont insultés devant le monde entier. Pouvez-vous leur pardonner ?
Narendra Modi galvanise ainsi l'électorat hindou et sous-entend qu'ils sont menacés par les musulmans, même si ces hindous représentent l'écrasante majorité de la population indienne. Et c'est ainsi que son parti instrumentalise l'affrontement contre le Pakistan musulman. Nilanjan Mukhopadhyay est spécialiste du nationalisme hindou et auteur d'une biographie de Narendra Modi.
Le BJP joue en permanence sur cette crainte des musulmans indiens. Il les assimile avec le Pakistan, ce qui fait naître une peur envers ces musulmans indiens. Le BJP a besoin de nourrir constamment cette animosité dans la société, jusqu'à ce que tous les hindous, qui représentent 80% de la population, cèdent à la pression et soutiennent complètement ce parti.
Et ce message est très bien compris par le public. Après avoir écouté le discours incendiaire de Yogi Adityanath, la foule exulte et balaye les bases laïques de l'Inde.
Ce pays doit être transformé en une nation hindoue. Nous sommes 80% de la population. Les musulmans ne représentent que 17,5%.
Le bras idéologique du parti du BJP est le RSS, une organisation paramilitaire centenaire dont Narendra Modi est membre depuis l'enfance. Pour ces nationalistes hindous, l'hindouisme est plus qu'une religion, c'est la culture de l'Inde ancestrale. Et tout Indien doit donc se soumettre aux préceptes édictés par cette religion, tels que le respect du Dioram et de la vache sacrée. Depuis 5 ans, des groupes hindouistes liés au RSS ont ainsi attaqué des centaines de musulmans et de membres de basse caste. Il les accusait, souvent à tort, de transporter illégalement des vaches vers l'abattoir. Et au lieu de s'en distancer, un ministre de Narendra Modi a été félicité 8 de ses hommes condamnés par la justice pour l'un de ces meurtres de musulmans. Nous avons donc demandé au député du BJP, Vijay Kumar Singh, sa position sur ces crimes.
Ces personnes sont marginales. Il ne faut pas les associer avec l'Inde dans son ensemble. De manière générale, ces 4 dernières années et demie ont été très pacifiques. Il y a eu très peu d'émeutes. Beaucoup parlent d'hindouisme. Il n'y a pas de religion appelée hindouisme, seulement l'ancienne religion appelée Sanatana, qui est tolérante et libérale.
Les dirigeants du BJP et du RSS n'appellent jamais directement à la discrimination envers les minorités religieuses, mais ils font comprendre que ceux qui n'adhèrent pas à leur mode de vie hindou sont des citoyens de seconde zone. Makbul Khan est un tisserand de soie, réputé propriétaire de Resham India à Benares, la circonscription de Narendra Modi. Et pour la première fois, ce musulman sexagénaire a peur pour sa vie.
Nous sentons une pression constante qui nous empêche de nous déplacer librement. Avant, à Bénarès, nous pouvions aller sans crainte dans les quartiers hindous très peuplés. Mais maintenant, nous avons peur. Les hindouistes décident de ce que nous devons manger, pour qui nous devons prier et comment nous devons vivre dans notre maison. Vous trouvez cela juste? Et si nous disons que le BJP agit contre les musulmans, ils disent que nous sommes des traîtres et que nous devons partir vivre au Pakistan. Donc, nous nous taisons et nous endurons les attaques.
Amnesty International a répertorié 156 attaques contre des musulmans indiens en 5 ans, entraînant la mort de 79 d'entre eux. La plupart étaient accusés de transporter ou de manger de la viande de bœuf. Narendra Modi n'a jamais directement condamné ces crimes.
Sébastien Farcy en Inde pour France Inter et pour RFI. Merci beaucoup Sébastien, vous revenez évidemment quand vous voudrez. Et nous, on y reviendra demain d'ailleurs en Inde. On vous expliquera précisément comment on vote à 900 millions d'habitants, ce qu'il faut penser de ce Modi justement dont on parlait à l'instant. Merci beaucoup. Allez, Black Bassi, Wani.
Loyem binengeli kere wongi Orbem balele limunu wongi Sogolwema binengeli kere wongi Loyem binengeli kere wongi Ngeni yesri yibe yo Basori nigil nibe yo Lo yes biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Lo yes iho Inyonyo ninyo Lo yes iho.
Big Bassi, on s'excuse, mais on n'est pas d'ici.
3, 2, 1, Twitter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Corinne avec une histoire incroyable. Ce soir que les journaux de l'époque avaient décrite comme la plus spectaculaire évasion de l'Allemagne de l'Est. Le film, du coup, s'appelle Le vent de la liberté. C'est donc une histoire vraie. Le pari dingue d'un couple d'amis. C'était dans les années 70. Ils construisent une montgolfière artisanale pour passer à l'Ouest. Disney en avait fait un film dans les années 80 qui s'appelait La nuit de l'évasion. Aujourd'hui, c'est un réalisateur allemand qui s'appelle Michael Bully Herbig qui nous raconte cette histoire à nouveau. On écoute d'abord.
Dabei fliegen wir in den Westen.
Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken.
Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die wären dich schön im Arsch gebissen haben.
Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird.
Voilà, on comprend que ça va pas se passer sans mal. Hein. Visiblement, il y a un petit peu de crash en route. Corinne, ça se passe le 16 septembre 79 à 2h32 du matin, en plein milieu de la nuit. Et ils risquent tout cela pour être libres et s'exprimer comme ils le veulent.
Oui, ils sont nombreux à avoir tout risqué pendant cette période pour passer à l'Ouest. 38 000 personnes selon les archives entre 1961 et 1989, chacun avec les moyens du bord, cachés dans une voiture, dans une valise, certains en creusant des tunnels, en traversant des rivières, pour déjouer les gardes à la frontière, les barbelés, les miradors, les rondes avec les chiens. Le film nous montre tout, y compris les cadavres de ceux qui ont échoué. Ceux qui voulaient fuir l'Allemagne de l'Est étaient considérés à l'époque comme des traîtres et la Stasi à vous surveiller partout, même chez vous. Une mauvaise blague politique, par exemple, c'était 3 ans de prison.
Alors, qu'est-ce qui a donné au réalisateur l'envie de faire ce film? Parce qu'on est quand même assez loin de l'univers habituel.
Ah oui, plus éloigné, ce serait même compliqué. C'est un peu comme si Danny Boone avait tourné une grande fresque sur l'occupation juste après les ch'tis. Michael Bully Herbig est l'un des humoristes les plus connus dans son pays. 20 millions d'entrées en moyenne pour chacun de ses films. Un cinéma très populaire à des années-lumière de l'histoire qu'il a choisi ici de nous raconter. Et même sans être un film immense, le résultat fonctionne bien. Il s'est énormément bagarré pour réaliser cette histoire qui l'avait beaucoup marqué quand il était plus jeune.
Ich habe tatsächlich mit 11 Jahren, das war 79.
1979, j'avais 11 ans, quand j'ai entendu parler de cette histoire. Monsieur Strelzig n'est pas allé à l'Ouest parce que la margarine y était meilleure, mais pour la liberté, l'autodétermination en ancienne RDA, vous pouvez être emprisonné simplement pour avoir fait une blague. Et cela m'a extrêmement touchée parce que j'ai passé la moitié de ma vie à faire des films comiques et des blagues. C'était extrêmement important pour moi. Ici, on s'en rend peut-être un peu moins compte, mais en Allemagne, pour quelqu'un comme moi, c'était particulièrement important que tout soit extrêmement précis, jusqu'au moindre détail. Il faut tout raconter sans arrêt et inlassablement. C'est très important, il faut le faire, surtout pour les générations qui vont venir. Il faut aussi montrer comment de tels régimes peuvent naître. Et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour empêcher qu'il naisse? Et si on regarde l'histoire allemande du siècle passé, on n'a vraiment rien loupé. Et cela fait qu'on doit en parler tout le temps et on doit tout dire et tout raconter.
Gehört leider Gottes zur deutschen Geschichte, aber man muss es benennen. Das ist ganz wichtig.
Alors Corinne, lui, il choisit de le raconter comme un thriller, mais il faut savoir que tout est vrai là-dedans, et on le sait, à cause des dossiers déclassifiés de la Stasi.
Exactement, le réalisateur voulait un film ultra réaliste, au plus près vraiment des protagonistes. Il a travaillé avec eux, à partir aussi des archives de leur évasion, sur lesquelles il s'est appuyé. Donc 25 kilos de papier, 2000 pages de documents qui racontent tous la traque dont ils ont fait l'objet à l'époque. Plus de 300 hommes avaient été mobilisés, car au-delà d'une évasion spectaculaire et médiatisée, c'était aussi l'image d'un pays. Aujourd'hui, Gunther et sa famille vivent toujours en Bavière, près du lieu où leur ballon s'est posé, ce fameux 16 septembre 1979. Peter, lui, est décédé il y a 2 ans. Il était reparti vivre dans sa maison de Posneck après la réunification.
Ça s'appelle Le vent de la liberté. C'est signé Michael Bully Herbig et c'est au cinéma cette semaine. Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, les Européens sont donc réunis à Bruxelles depuis une petite heure maintenant. Sommet exceptionnel sur le Brexit. La nouvelle date limite, c'est après-demain. Sauf que Londres, on le sait, a demandé un nouveau report et les Européens semblent partis pour l'accorder à Theresa May. Bref, bel effort de conciliation. On peut aussi voir une Europe prise en otage. C'est votre Monde à l'envers.
Ils sont donc en train d'en causer, à l'instant où nous parlons, avec Theresa May d'abord, puis tout à l'heure, sans elle, pendant le dîner, et tout indique que dans leur grande sagesse, les 27 Européens vont donc accorder un nouveau délai à Londres pour régler le Brexit, peut-être même un long délai. Il est question d'aller jusqu'à la fin de l'année 2019. Alors, réjouissons-nous de cette volonté de concertation et de compromis qui ne se laisse pas embarquer par les esprits échauffés. Esprits échauffés, c'est la formule qu'on emploie à Bruxelles pour qualifier certains dirigeants européens qui en ont franchement ras-le-bol de la comédie à sketch du Brexit. Bruxelles veut parvenir avec Londres à un divorce par consentement mutuel, parce qu'on le sait bien, ça laisse moins de traces, ça injurie moins la relation future. Donc, accepter le report, c'est la voie de la raison, et puis par définition, ça annihile les risques du no deal dans 48 heures, avec ses impacts imprévisibles sur les marchés financiers, la pêche, les douanes, etc., sans oublier le nœud gordien de la frontière entre les deux Irlandes. Bref, c'est une main tendue aux partenaires britanniques, incontournables dans tant de domaines, la défense, l'économie, la diplomatie, j'en passe. Et un report long, c'est encore mieux, puisque c'est une lapalissade, ça laisse plus de temps pour trouver une solution. Donc on se dit, l'Europe est sage. Mais en même temps, c'est quand même fort de café.
Oui, c'est vrai, vous voulez parler d'une sensation de s'être un petit peu fait balader par Londres, en quelque sorte.
C'est pas qu'une sensation, l'Europe a joué au poker avec le Royaume-Uni. Et pour l'instant, l'Europe a perdu au poker, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a brandi la menace du no deal en espérant faire plier l'autre, sauf que l'Europe, c'est coucher la première, comme on dit au poker, elle n'en veut pas. Elle a beau dire que l'Europe, que le Royaume-Uni en serait la première victime, en fait c'est elle, l'Europe, qui en a le plus peur, donc elle accepte un nouveau report. Theresa May n'a pas été fichue, capable d'arriver à quoi que ce soit depuis des mois avec son propre Parlement, mais elle joue des coups tactiques et elle survit à chaque fois, et c'est comme ça qu'on va de report en report. Vous allez me dire, c'est pas grave, hein, on va pas être sous polet, les questions de susceptibilité sont quand même secondaires sur ces enjeux majeurs. C'est vrai, sauf quand même qu'avec le Royaume-Uni, c'est un peu une habitude depuis un demi-siècle. À chaque fois, on joue au poker avec les Britanniques, à chaque fois, ils gagnent. Des régimes d'exception, des dérogations, des traitements à part, rabais sur le budget de l'Union, clauses dérogatoires sur le temps de travail, refus de l'euro, refus de la zone Schengen. Au total, près d'une trentaine de régime d'exception. Je peux vous dire que ça énerve bon nombre de députés européens. Ils trouvent que le Brexit, c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Alors donc, au-delà quand même de cette susceptibilité dont vous parlez, sur le fond, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, le report ?
Ça se discute. D'abord, un report long au-delà du 30 juin, ça signifierait donc des élections européennes au Royaume-Uni dans 6 semaines. En un mot, c'est surréaliste. Le pays qui a voté pour sortir de l'Europe irait voter pour désigner des élus en Europe. On marche sur la tête. Ensuite, il est donc question que ce report soit assorti de contraintes, d'exigences posées par les Européens. Les Britanniques n'auraient pas leur mot à dire sur le budget ou sur la désignation des commissaires à Bruxelles. Il y a un hic, c'est pas vraiment possible. Les traités européens ne le prévoient pas. Soit on est dans l'Union, soit on n'y est pas. Mais si on y est, on a les mêmes droits que tout le monde. Donc faire respecter ces contraintes, ça s'annonce périlleux. Enfin et surtout, ce report, s'il a lieu, va polluer l'année qui vient comme il vient de polluer les 6 derniers mois. L'Union européenne a pourtant d'autres chats à fouetter à l'extérieur, pêle-mêle, la menace commerciale chinoise, la menace sécuritaire russe, l'imprévisibilité de l'Amérique de Trump. À l'intérieur de l'Union, les atteintes à l'état de droit par les gouvernements populistes, l'industrie, l'emploi, l'environnement, etc. Et donc là, on risque de remettre le couvert avec un Brexit qui occupe l'essentiel de l'agenda. Emmanuel Macron parle d'un risque d'une Europe prise en otage par le Brexit, il a raison. À moins que les Européens n'aient une stratégie cachée depuis le début, un pari visant de report en report à finir par conserver le Royaume-Uni dans l'Union, auquel cas ça serait vraiment Bruxelles le champion du poker.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup.